Bienvenue dans Pause Sexo, le podcast qui parle de sexualité en toute liberté. Salut Céline.
Salut Pascal.
Tu es médecin, psychiatre, sexologue, tu es aussi l'auteur de deux livres sur le sujet. La sexualité masculine et féminine dans tous ses ébats, chez Fayard, édité chez Fayard. Quant à moi, je suis à l'origine de plusieurs podcasts qui questionnent les relations, l'amour et la sexualité. Dans ce quatrième épisode, on continue à parler du désir. On était, oui, alors attends, où est-ce qu'on en était dans l'épisode précédent? Je retrouve mes notes.
Et on va parler surtout de tous les facteurs qui influencent le désir.
Là, c'est ça, on aborde le sujet, c'est parce que c'est hyper important. Qu'est-ce qui influence le désir, donc oui. en bien et en mal, hein, ce qui l'influence dans le sens, l'augmente, comme ce qui peut le diminuer et le stopper.
En général, ce sont toujours les facteurs qui le diminuent qui nous posent problème. Malheureusement, bien que les facteurs qui l'augmentent peuvent aussi être très très problématiques.
Ça peut être problématique.
Mais ça, on le verra dans un autre podcast qu'on fera, qui est spécialisé dans les addictions sexuelles ou l'hypersexualité.
D'accord.
Mais donc on va en parler rapidement aujourd'hui.
Alors, les facteurs qui influencent le désir, on fait quoi? On distingue chez les hommes, chez la femme? On fait deux catégories?
Non, non, puisque comme on a vu, hein, la question du désir n'est pas genrée, hein. Donc on va parler des facteurs qui influencent le désir en règle générale, hein. Et ensuite par contre on différenciera les hommes et les femmes en ce qui concerne les troubles du désir, parce qu'on verra que c'est pas tout à fait les mêmes troubles qu'il y a chez les hommes et les femmes, même si ça se rapproche beaucoup. Donc, ce qui influence le désir, ça va être, c'est déjà très très complexe, parce que ce qu'on a vu, hein, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans cette question du désir. Donc, ça va être évidemment les facteurs personnels, alors que ce soit l'histoire du sujet, son éducation, ses expériences vécues, l'existence de traumatismes sexuels ou pas sexuels. La culture, sa religion, son éducation morale, ses tabous, ça va être les facteurs relationnels, ses modes d'attachement. Est-ce qu'on a un mode d'attachement qui est plutôt anxieux, évitant, confiant, etc. Ça va être évidemment la question de sa vision du couple, de sa vision de la place de la sexualité dans le couple. Ça va être la qualité de la communication dans le couple, la gestion des émotions, genre comment on gère ses émotions, est-ce qu'on a plutôt tendance à fuir ses émotions ou au contraire à les accepter, parce que quand on a tendance à fuir à ses émotions, on a tendance à fuir aussi son désir. Ça va être aussi dépendant de son rapport au travail, de son rapport au stress, parce que quand on travaille beaucoup, beaucoup, et qu'on a un travail hyper stressant, bah forcément, on a moins de place pour la sexualité, donc moins de désir. Mais ça va être aussi dépendant de son rapport au corps, comment on s'est construit dans son rapport au corps. On sait très bien que quand on a un rapport à son corps qui est pas bon, eh ben on va avoir moins de désir, en tout cas moins de désir de se montrer, moins de désir d'intimité, moins de désir de plaire aussi, parce qu'on va avoir l'impression de pas être désirable. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est éminemment complexe, la question du désir, que ça dépend d'énormément de facteurs. Il y a plein d'études, hein, aujourd'hui, même en sociologie, hein, qui montrent à quel point nos désirs sont façonnés par la sociologie. Donc, c'est même à la base du marketing, hein, c'est-à-dire que le marketing, c'est qu'on amène la science du désir, c'est-à-dire comment je fais pour te montrer un nouvel objet que je vais t'obliger à désirer, que tu vas avoir envie de posséder, quoi. Donc c'est vraiment la base du marketing, c'est de nous proposer des nouveaux objets qui ne nous servent à rien, et qu'on va désirer avoir. Donc voilà. Donc autant dire que la question du désir, ça se joue à de nombreux niveaux et que toute la publicité est basée là-dessus.
Le fonctionnement de la publicité, c'est la création d'un désir.
La création d'un désir, oui. Et la validation d'un désir aussi, ou pas. Est-ce que je suis validée dans mon désir ou pas ? Mais par exemple, aujourd'hui, bon, il y a heureusement les choses et les mentalités changent. Mais par exemple, on a l'idée que seul le corps mince avec des gros seins est désirable. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui pensent encore que les hommes ne désirent que les femmes minces avec des gros seins, alors que c'est totalement faux, évidemment. Hein. Les hommes aiment le corps des femmes comme il est. Je ne cesse de répéter ça aux personnes qui viennent me consulter, parce que je n'ai entendu jamais un homme dire qu'il n'aimait pas le corps ou qu'il ne désirait pas le corps de sa partenaire. Il aime le corps tel qu'il est, même si elle a pris du poids, même si ils aiment et ils désirent leur partenaire, dans l'immense majorité des cas. Ce qui a pu être démontré, c'est que, pour cette question du désir, c'est que plus la sexualité était vécue comme récréative, c'est-à-dire vraiment dans le seul but d'avoir et de donner du plaisir, alors plus le désir sexuel est élevé. Donc ça renvoie à l'idée que, évidemment, plus on base sa sexualité sur la question du devoir conjugal ou du devoir moral, bah, moins le désir sera important. Ça, je pense que c'est entendable pour tout le monde, que la sexualité doit rester du plaisir, que c'est un moyen simple, sain, facile, finalement, d'avoir du plaisir, hein, la sexualité, qu'elle soit auto-érotique ou relationnelle, et que quand ça devient un devoir parmi d'autres, bah, ça donne pas très envie de le faire. Et ensuite, on peut dire aussi que le fait d'avoir la quantité de désir sexuel dans un couple n'est pas reliée directement à la question de la satisfaction sexuelle du couple. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup l'amour dans un couple et ressentir peu de satisfaction, comme on peut faire peu l'amour dans son couple et en être totalement satisfait. Donc ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de désir sexuel dans un couple qu'on a une satisfaction sexuelle. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on a peu de désir sexuel dans son couple qu'on a une absence de satisfaction sexuelle. Donc c'est important, ça aussi, dans les couples qui durent, de remettre un peu les choses à leur juste place. C'est-à-dire que la sexualité n'est absolument pas indispensable au bonheur d'un couple. Et j'en parlerai tout à l'heure dans le podcast sur le couple, le désir dans le couple qui dure. Mais je peux en toucher deux, trois mots là. C'est que malheureusement, on voit, je parlais de la norme de la société, hein, du poids de la société dans nos désirs. Mais là, par exemple, la société nous fait croire que pour être un couple épanoui, il faudrait faire l'amour trois fois par semaine. Non, il y a des tas de couples qui font peu, voire pas l'amour, une fois tous les 6 mois peut-être, une fois tous les 3 mois, et qui sont très heureux, mais qui viennent consulter quand même en se disant « c'est pas normal, je ne suis pas normal ». Je ne suis pas normal. Mais si, en fait, il n'y a pas de normes en matière de sexualité. Il n'y a pas de normalité.
C'est le discours de la société qui les fait se questionner sur la normalité de leur relation.
Exactement.
Mais en soi, ils n'éprouvent pas de problème à vivre cette situation.
Exactement.
À avoir, par exemple,
ils n'ont aucune souffrance de vivre leur vie de couple sans ou avec très peu de sexualité. Mais souvent, parce qu'en fait, leur couple soit ne s'est pas construit sur la sexualité, il s'est construit sur une intimité, sur une connivence, sur une complicité qui peut être intellectuelle, sportive, créative, professionnelle, peu importe. Hein. Mais en tout cas, la sexualité n'est pas le fondement de leur couple. Donc ce n'est pas ce qui est important dans leur couple. Et ça peut être aussi simplement la question de la qualité relationnelle, de la communication, le fait de partager le quotidien, l'intimité, voir la famille, etc. Donc ce n'est pas absolument pas le désir sexuel qui fait qu'un couple dure ou pas, en tout cas. Et que les études qui ont montré que les couples qui durent, ce sont des couples qui... C'est la qualité de la communication et l'absence de violence. Hein, globalement, ce qui fait qu'un couple dure. Et moi, je rajouterais la volonté que le couple dure. Parce que sans volonté qu'un couple dure, le couple il ne dure pas.
Volonté des deux deux parts.
Deux, bien sûr. Oui, des deux. Et du travail, bien sûr. Donc là, maintenant, on va parler de la, de peut-être ce qui se passe quand il y a moins de désir.
Oui.
Ce
qui fait influencer le désir à la baisse.
Voilà, ce qui fait influencer le désir à la baisse. On va commencer peut-être chez les hommes.
Allons-y.
Allez. Chez les femmes, je sais pas.
Non, chez les hommes, hein, que commençons. Gardons le meilleur pour la fin.
Alors, globalement, ce qui fait... on va voir que chez les hommes ou chez les femmes, c'est un peu les mêmes choses qui vont être retrouvées. Mais globalement, dans ce qui fait baisser le désir chez les hommes, ça va être l'habitude, hein, la monotonie, la routine dans le couple qui dure. Le stress professionnel.
Donc la routine, vraiment, ça fait baisser le désir. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Ah ben.
Pourquoi cette habitude? Parce qu'en vrai, une habitude, c'est génial, c'est confort, c'est rassurant.
Oui, alors, parce que déjà, le désir se nourrit de manque, d'insécurité. Or, dans un couple qui dure, qui cohabite, on a la sécurité et on a la présence. Donc, c'est comment remettre le désir, c'est comment remettre de la distance, de l'insécurité, du désir de plaire, la peur de ne pas plaire aussi.
Ça m'a l'air
de la séduction.
Parce que tu mets tout ça, c'est antinomique avec le couple, puisque le couple, c'est être là tout le temps. Donc,
c'est pour ça que le couple, c'est un travail. C'est du travail, le couple amoureux. Hein, le couple amoureux, c'est du travail. Et avoir un désir dans son couple qui dure, c'est vraiment du travail.
Et comment ça se traduit? Comment tu abordes ce travail?
Alors, on en parlera tout à l'heure dans la question du désir dans le couple qui dure. Donc, dans les grandes causes, en tout cas chez les hommes, hein, c'est la consommation de pornographie. Trop de pornographie, hein, vraiment, ça tue le désir. Il y a un livre de Michaela Mardiano qu'elle a écrit il y a quelques années, mais après, depuis, elle en a écrit plusieurs sur la question de la pornographie, qui s'appelle « La pornographie ou l'épuisement du désir », qui est un livre où elle reprend effectivement tous les impacts délétères de la pornographie sur la question du désir. Et ça, particulièrement chez les hommes, parce que les hommes sont plus grands consommateurs de pornographie que les femmes, depuis longtemps en général, et on avait vu dans un podcast précédent un petit peu les effets de la pornographie sur la question de la stimulation et de la nécessité d'augmenter l'intensité des stimuli pour avoir le même plaisir, et ben ça agit de la même façon quasiment sur le désir, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on a la flemme de faire l'amour avec sa partenaire. Une petite vidéo porno, on prend son plaisir, et puis on peut même avoir la flemme. Il y a aujourd'hui des hommes qui le disent, hein. Non, la flemme d'aller faire l'amour avec ma partenaire. Et puis ça prend trop de temps, et puis c'est pas pareil, il faut prendre en compte le désir de l'autre, il faut prendre en compte la façon de donner du plaisir à l'autre, etc.
Ils refusent de travailler, quoi.
Voilà. Donc, l'autre source de troubles du désir, enfin de baisse du désir chez les hommes, c'est aussi beaucoup. Ça peut être aussi un moyen de cacher, entre guillemets, un trouble de l'érection ou une éjaculation prématurée. C'est-à-dire que au lieu de prendre en charge le trouble et d'accepter, d'assumer, parce que c'est comme ça, hein, ça arrive, eh ben, ils vont éviter la sexualité. Éviter le rapport pour éviter d'avoir à se questionner et à travailler sur leur trouble de l'érection ou leur éjaculation prématurée, par exemple. Puis, ça va être aussi beaucoup le rapport au travail. On sait que les hommes ont un rapport... il y a beaucoup d'hommes qui mettent leur travail avant tout. Et donc, c'est sûr que quand on passe son temps à travailler, eh ben, on n'a plus beaucoup de disponibilité psychique pour penser à l'autre, pour penser au plaisir, pour penser au désir, pour fantasmer, pour avoir un imaginaire érotique, pour avoir une vie sexuelle ne serait-ce que psychique, et donc avoir du désir. Et puis, parfois simplement, quand on est trop investi dans sa vie professionnelle, on manque de temps. On n'a simplement pas le temps de le faire. Et puis quand on rentre le soir, on est crevé, on n'a pas envie, quoi. Donc ça, c'est une des sources de manque de plaisir, de baisse du désir chez les hommes, mais aussi chez les femmes, hein, de plus en plus, dans notre vie active, aujourd'hui, dans notre société contemporaine, où on manque de temps. C'est-à-dire que le plus grand ennemi du désir, c'est le manque de temps.
Oui, parce que le désir, il a besoin de temps pour... Pour tout. Il a besoin de temps pour naître, il a besoin de temps pour exister, pour s'épanouir, pour grossir, puisque j'imagine que plus le désir prend le temps de grossir et plus la récompense à venir est intéressante, alléchante.
Et ça on le sait tous, hein, c'est-à-dire que plus on attend quelque chose que l'on a désiré, plus le bonheur de l'avoir et le plaisir ressenti est grand.
Tout à fait. Est-ce qu'on a les mêmes des équivalences de chez la femme, donc les...
Alors, juste pour finir chez l'homme, parce que ce qui est aussi important à savoir, c'est que les hommes ont aussi besoin de se sentir désirés. Ça, on pense beaucoup que là, c'est la femme, qu'il est les femmes qui ont besoin de se sentir désirées pour désirer. Mais les hommes ont besoin de se sentir désirés. Et on entend ça beaucoup en consultation. Elle ne me montre jamais qu'elle me désire. Elle ne me montre jamais qu'elle a envie de moi. Donc, du coup, je lui montre plus. J'évite. Je me tiens à distance. C'est dommage. Donc, montrer que les femmes montrent aussi, acceptent aussi de montrer aux hommes qu'elles sont désirantes. Or, dans notre société, souvent, c'est mal vu. Une femme qui montre qu'elle a du désir va passer pas pour une nymphomane, pour... Il y a une vision, une connotation négative pour une femme à montrer son désir, alors qu'il y a une connotation positive pour un homme à montrer son désir. Dans la société, globalement. Mais dans le couple, c'est important que les choses soient peut-être vues différemment et que nous, les femmes, on n'ait pas de difficultés, qu'on n'ait pas d'inhibition, en tout cas, à montrer que l'on désire.
Moi, j'ai une question par rapport donc, à ce que tu viens de dire à l'instant, mais qui fait référence à l'épisode précédent. C'est le désir réactif.
Oui.
Mais parce que... Là, donc, si je reprends un peu ce que tu dis, donc à savoir que un homme lambda se plaint et dit ma femme ne me montre pas de désir, mais puisque si elle a pas ce désir, voilà, c'était le désir spontané.
Oui, mais là, quand on parle de désir spontané ou réactif, on parle de désir sexuel. Or, le désir, c'est pas seulement sexuel. On peut désirer un homme, on peut montrer qu'on a du désir pour un homme en lui montrant qu'on a du désir, ne serait-ce que de passer du temps avec lui, de lui faire des câlins, de le caresser, de l'embrasser, de montrer qu'on a envie d'intimité, pas forcément sexuelle, et se dire que le désir sexuel proprement dit va venir après.
D'accord.
Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose.
Bien. Très très bien, merci.
Voilà, donc ça c'était les grandes causes psychologiques. Après, il y a des causes physiques qui arrivent dans les pertes de désir. Donc ça va être surtout, ça en général on les connaît. Quand on est atteint de ce genre de pathologie, on les connaît. C'est les maladies neurologiques surtout, mais aussi l'adénome hypophysaire. Alors ça c'est pas très connu, l'adénome hypophysaire. Ça c'est une petite tumeur bénigne qui est développée au niveau de l'hypophyse qui va entraîner donc la sécrétion de prolactine dont on a vu que c'était une hormone qui inhibait donc la sexualité et le désir, donc il va entraîner des troubles du désir. Alors chez la femme c'est la même chose, ça entraîne des troubles du désir, mais le diagnostic est fait beaucoup plus tôt chez la femme parce que ça entraîne aussi un arrêt des règles. Donc on va faire le diagnostic très vite. Chez l'homme, il n'a pas de règles. Donc le diagnostic va être fait beaucoup plus tardivement. Et parfois, après des années d'évolution de la tumeur, et donc c'est pour ça que devant une baisse de désir chez un homme, mais aussi chez une femme, mais surtout chez un homme, le mieux, ce serait vraiment de faire un bilan clinique systématique à la recherche, notamment du taux de testostérone, du taux de prolactine, etc., pour vérifier qu'il n'y a pas une cause physique qui pourrait passer inaperçue, en rappelant qu'en médecine, on a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de proposer tout ce que l'on sait aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans l'état de développement de nos connaissances, et de proposer aux patients les bilans en conséquence. Et je pense que ce dosage-là, il est important pour ne pas passer à côté de l'adénome à prolactine, Voilà, donc les pertes de désir, c'est aussi donc l'avancée en âge, hein, évidemment. Hein, c'est-à-dire que voilà, le désir baisse avec l'âge, le désir sexuel. Tous les troubles endocriniens et hormonaux qui vont faire intervenir les hormones et les neurotransmetteurs liés au désir. Alors ça va être évidemment le déficit en testostérone, certains troubles de la thyroïde, toute maladie chronique qui va influencer la qualité de vie du sujet, qui va provoquer de la fatigue, des douleurs chroniques, les maladies de peau chroniques, tout ça, ça va influencer le désir. C'est sûr qu'on a moins de désir quand on a un corps recouvert de psoriasis, par exemple, ou d'eczéma, quand on a une peau saine. Voilà, c'est des choses un peu évidentes. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a la consommation de drogue et d'alcool. On est dans un pays où, malheureusement, la consommation d'alcool est encore trop importante. Donc, tout ce qui est alcool provoque une diminution du désir. On a l'impression que ça augmente le désir. Pas du tout. Un verre ou deux, ça désinhibe. Au-delà, ça bloque. Hein ? Donc, on le sait tous qu'un verre ou deux, ça désinhibe. Mais au-delà, la consommation chronique d'alcool, en tout cas, la consommation chronique d'alcool, provoque une baisse de désir. Y compris toutes les drogues et certains médicaments, notamment les antidépresseurs. Bon, alors, dans la dépression, on ne sait jamais si c'est la dépression qui entraîne un trouble du désir. Donc la dépression entraîne un trouble du désir, ça c'est sûr. Les antidépresseurs en rajoutent une couche, donc c'est encore plus compliqué. Puis il y a certains antihypertenseurs aussi qui entraînent des troubles du désir. Bon, il y a plein de médicaments, hein, donc s'il y a un trouble du désir, on fait aussi le point sur la prise des traitements médicamenteux.
Les hypertenseurs, c'est un type de médicament qui...
Qui sont utilisés dans les hypertensions artérielles. Donc la dépression, évidemment, 75% des personnes qui ont une dépression ont un trouble du désir associé. Hein, donc ça, c'est un des premiers effets de la dépression, c'est la perte du désir. Hein, parce que la dépression, c'est quand même la perte de désir tout court, la perte de désir de vivre. Donc souvent, il y a une perte de désir aussi. Les troubles anxieux aussi, qui vont affecter le désir. Toute difficulté relationnelle dans le couple et tout défaut de communication. Aussi, par exemple, bon, ça on le verra dans Le couple qui dure, mais j'ai trouvé ça dans un des livres que j'avais lu, c'est des études qui ont montré que les couples dans lesquels la charge mentale et des tâches ménagères est répartie le plus équitablement sont des couples dans lesquels il y a le plus de désir.
Ok, donc ça on va l'aborder dans les couples qui durent, parce que je trouve ça très intéressant.
Bref, ok. Donc plein de choses. Et chez la femme...
Chez la femme maintenant.
Chez la femme, il y a aussi donc plein de facteurs qui vont provoquer des baisses du désir. C'est la cause la plus importante de consultation en sexologie. Hein, c'est vraiment les troubles du désir chez la femme. Elles vont aussi souvent mettre en place tout un tas de stratégies d'évitement, hein, pour éviter le désir. Alors c'est la fameuse migraine du samedi soir.
Qui est plus facile de dire j'ai une migraine que j'ai pas de désir.
J'ai pas envie. Alors parce qu'en plus c'est entendu comme je n'ai pas envie de toi.
Bien sûr.
Alors que c'est pas ça, c'est souvent je n'ai pas envie. Mais ça peut être je n'ai pas envie de toi. Parce que quand malheureusement encore, les couples sont trop genrés sur les tâches ménagères, etc. Donc quand une femme, elle a fait son boulot, s'est occupée des gosses, elle a fait à manger, elle se pose à 22h dans le canapé, bon, ben elle a tout sauf envie de faire l'amour à son mec qui n'a rien fait toute la journée, enfin, ou qui a travaillé mais qui n'a rien fait d'autre. Donc ça, c'est sûr que tous les conflits, toutes les rancunes, les reproches, tout ça fait qu'on a moins envie de faire l'amour, ça c'est sûr.
Il suffirait juste, par exemple, d'avoir une femme de ménage ou un homme
Exactement.
De ménage.
Quand on a les moyens, c'est bien. Quand on a les moyens, avoir une femme de ménage, ça quand même, ça évite un certain nombre de conflits de couple.
Donc il y a ces migraines, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme...
Il y a le sentiment de culpabilité.
Culpabilité par rapport à quoi ?
Ah bah, le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui... ça fait partie des grands sentiments humains. hein, oui. Comme le sentiment de honte, le sentiment de solitude, le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet. Ça, c'est partie des grands sentiments humains. Ce sont des sentiments qui se construisent dans notre développement psychologique. Et donc, on va le sentiment de culpabilité, notamment, se construit dans notre enfance, et c'est lui qui nous va nous permettre de vivre en société. C'est lui qui va nous permettre de comprendre que ce n'est pas bien de frapper son petit frère ou sa petite sœur ou son petit camarade de classe, encore moins de le mordre, encore moins de le tuer. Donc c'est vraiment à la base, le sentiment de culpabilité est à la base de notre vie en société, ce qui nous permet d'être des animaux sociaux. Malheureusement, c'est aussi un moyen de d'éducation. C'est-à-dire que le sentiment, la culpabilisation fait partie, malheureusement, encore trop souvent, des moyens que l'on a pour éduquer nos enfants. Hein. C'est pas de l'éducation, c'est un peu du dressage, finalement. Donc, comment éviter d'éduquer nos enfants en les culpabilisant parce que ça va en faire des adultes qui vont avoir du mal à ressentir du plaisir et à désirer ensuite? Donc, il y a d'autres moyens. Bon, ça, c'est pas l'objet de ce podcast. Mais en tout cas, quand on a eu une éducation de ce type-là, et puis d'autres choses, hein, il y a plein d'autres origines au sentiment de culpabilité qu'on appelle morbide, hein, c'est-à-dire qu'il est là alors qu'il ne devrait pas être là. C'est finalement des gens qui ont un juge interne trop sévère, qui ont un gendarme interne. En psychanalyse, on dirait qu'ils ont un surmoi trop strict, hein, qui leur empêche d'accéder au plaisir, et donc ils ont une baisse de désir parce qu'ils n'accèdent pas au plaisir. Voilà, ça c'est le sentiment de culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui est très souvent à l'origine d'une baisse de désir et qu'on voit chez les femmes, et on le voit aussi chez les hommes, hein, mais parfois chez les hommes, ça va se renverser. C'est-à-dire que au lieu de s'exprimer vers une perte de désir, ça va être s'exprimer vers une hausse de désir. Genre, comme si c'était, ils avaient pris le chemin inverse. Ce qui va provoquer aussi des baisses de désir dans le couple, c'est le sentiment d'insécurité. Hein, alors que normalement, ça devrait l'insécurité, le désir se nourrit d'insécurité.
Oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit.
Oui, mais alors chez la femme, l'insécurité, ça provoque plutôt un manque de désir parce que le sentiment d'insécurité renvoie plutôt au manque affectif, au sentiment d'abandon, au sentiment de rejet. Ça va plus être pourvoyeur de désir de tendresse et de câlin que de désir sexuel proprement dit. Voilà. Donc la femme va plus essayer de se rassurer par des demandes de tendresse plus que par une demande de sexualité. Comme si, finalement, c'était la tendresse qui lui faisait dire « je suis aimée » plus que le désir qui la rassure sur le fait d'être désirée. Bon, après, il y a toutes les émotions, hein, la colère, l'anxiété, la tristesse, comme on a dit pour les hommes, etc. Voilà. Et puis, les périodes propres à la femme, hein, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, pendant l'allaitement, on va avoir moins de désir. La grossesse, ça peut aussi être une période où on a moins de désir, mais parfois où on en a plus, hein, ça dépend des trimestres.
Ah oui.
Oui, il y a des périodes, des trimestres où on a plus, le premier trimestre on en a moins, le deuxième on en a plus, globalement. Hein. Mais ça, on refera un podcast sur la sexualité et la grossesse, parce que je trouve que c'est important. Sexualité des hommes et des femmes lors des grossesses, hein, parce que la sexualité aussi, la grossesse influence aussi la sexualité des hommes, hein, la grossesse et le postpartum étant la période après la grossesse.
Ouais.
Ça influence la sexualité. Et si, en tout cas, vous avez un trouble du désir, c'est-à-dire si vous avez moins envie et que ça vous peine et que vous avez envie d'essayer de chercher pourquoi, ben, à ce moment-là, je vous conseille soit de lire, soit d'écouter des podcasts, comme vous êtes en train de faire, soit même de consulter un thérapeute spécialisé, sexologue ou pas, mais en tout cas un thérapeute qui vous permettra de faire cette enquête de manière accompagnée.
Une enquête un peu à la Sherlock Holmes, à la Arsène Lupin.
Moi, j'étais fan de Sherlock Holmes aussi.
Très bien. Bah, merci beaucoup pour cet épisode. On va continuer à parler du désir.
Oui.
Mais on va se focaliser sur le désir dans un couple qui dure. Hein.
C'est ça. C'est dans le couple qui dure, qui est vraiment quelque chose qui est demandé très, très fréquemment. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un couple qui dure pour conserver du désir.
Oui. Et ben ça va être l'objet d'un épisode complet qu'on retrouvera dans 15 jours. Donc merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je rappelle que c'est un podcast gratuit qui est fabriqué de manière indépendante sur notre temps libre. Donc on compte sur vous pour nous rémunérer en like, en commentaire et en partage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Petite info sur les statistiques que j'ai de mes précédents podcasts. La moitié des partages qui ont lieu quand les gens partagent un podcast, c'est sur WhatsApp.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est la moitié des partages, c'est quel que soit l'endroit où on l'écoute. Mais par exemple, si vous écoutez sur Spotify, eh bien, le partage, c'est souvent par WhatsApp que ça se fait, ça se partage de cette manière-là. Donc, je compte sur vous. Là, vous pouvez copier le lien de l'épisode que vous venez d'écouter et l'envoyer sur WhatsApp à des gens qui vous pensez seraient susceptibles d'être intéressés par le sujet ou des gens avec qui vous avez envie d'amorcer un dialogue autour de ce sujet. Voilà, si vous souhaitez nous soutenir d'une autre manière, vous pouvez vous procurer les livres de Céline qui sont disponibles partout,
hein, partout.
Fnac, Amazon, partout. Librairie.
Exactement.
On vous met les liens en description. Je rappelle les titres, c'est La sexualité masculine dans tous ses ébats et La sexualité féminine dans tous ses ébats. Tous les deux édités chez Fayard. Et les deux sont disponibles en grand format et en poche aussi. Hein. Moi, j'ai eu le féminin en poche.
Le féminin en poche. Le masculin, non, il est sorti cette année. Ouais.
Il est trop récent. Mais voilà. Mais, bon, en tout cas, je les conseille très fortement. J'ai lu et c'est ce qui m'a amené à collaborer avec toi sur ce podcast. Voilà. Et pour ma part, si vous voulez me soutenir, eh ben, prenez une place pour mon spectacle Réponse de mec qui se joue à Paris. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de cette trilogie d'épisodes sur le désir. Ciao.
Dans 15 jours.